Ce sont des seniors. Qu'ils fassent partie du 3e, du 4e ou du 5e âge, elles et ils témoignent de leur vécu, de leur expérience, de leur vision du monde. Ce monde qui est aussi notre patrimoine vivant. À l'abordage, une émission proposée par Sarah Hautesser. Three flops in a row. It feels the flow. Yo-ho, yo-ho. He's the man. He's the man who never stops. À l'abordage, aujourd'hui avec Nelly. Ça fait combien de temps, Nelly, que tu es à la retraite?
Alors, ça fait un mois et demi, presque deux. J'ai 62 ans et demi, donc ça fait un an et demi que j'y pensais. Donc voilà, c'est cette pensée de cette retraite est dans ma tête depuis un an et demi, deux ans. Voilà. C'est un mot que je n'aime pas, retraite, parce que je me dis, on se retire d'où? On certes de sa vie professionnelle, mais retraite, ça me fait penser à... C'est terrible, hein, un peu sexuel, au retrait, pour pas avoir d'enfants, donc pour pas être créatif. Et justement, avant de venir, là, j'en parlais avec une amie qui me dit « N'oublie pas de dire à Sarah que retraite en espagnol se dit jubilación.
Jubilation. » Donc tu as devancé ma question, c'était savoir si tu dis de toi que tu es retraitée ou est-ce que c'est justement tu as du mal avec ce mot-là?
J'ai beaucoup de mal et souvent d'ailleurs je fais des lapsus. Une fois c'était « je suis au chômage ». Oui, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps où j'ai dit « depuis que je suis au chômage ». Oui, je sens que ce mot, je ne peux pas le dire. Ou alors je dis « en reconversion » parce qu'à partir du moment où j'ai su que j'allais prendre ma retraite, il y a quelque chose qui s'est activé dans ma vie. C'est que je faisais du yoga, c'est quelque chose qui m'a aidée dans ma vie quand je suis arrivée à Millau, là, où, il y a 10 ans à peu près. Et voilà, perdu mon boulot, je me retrouve à Millau. C'est le yoga qui m'a un peu tenu la tête hors de l'eau. Et juste avant ma retraite, voilà, je me suis dit, je vais faire professeur de yoga. Donc, mon départ à la retraite allait en même temps avec une formation intensive en yoga, pour en plus en faire un métier. Donc il y avait quelque chose qui m'a beaucoup soutenue pour ne pas sentir peut-être cette idée de retrait parce que ça me donnait l'impression d'aller vers autre chose. Voilà.
Alors si je te dis il n'y a pas d'âge pour s'activer, comment tu organises ton temps depuis ce moment de la retraite? Bon, alors du coup, il y a le yoga.
Il y a le yoga.
Cette formation.
Voilà, puis j'ai pris la retraite en hiver alors que plein de gens disent qu'il ne faut pas prendre la retraite en hiver, mais du coup, j'ai un peu hiberné. Et le premier mois, sans aucune culpabilité, c'était je me lève quand je veux. Je me lève tôt, mais je me recouche avec un livre. Et là, je trouve que ça, c'est luxueux de se recoucher avec un livre, un café ou un thé. Et après, j'enchaîne sur ma séance de yoga. Et après, ma journée, on va dire plus à l'extérieur, commence plutôt en début d'après-midi, quoi. Après le yoga.
Et alors après, l'après-midi, c'est libre?
Alors c'est libre ou pas libre, parce que y a la famille, il y a les petits-enfants. J'ai aussi gardé quelques activités professionnelles, associatives. C'est aussi peut-être la philosophie du yoga, c'est au jour le jour. Si je suis fatiguée, je sors pas. Bon, en général, je vis en appartement, donc il faut toujours que j'aille respirer, moi, que j'aille dehors. C'est mon côté un peu gitane. J'ai failli d'ailleurs, pour ma retraite, aller vivre dans une caravane. C'est pas dit d'ailleurs que je le fasse pas, maintenant qu'il fait un peu plus soleil, faut être toujours dehors.
Et c'est une plaisanterie gitane ou pas?
C'est quand j'étais petite, on m'appelait la gitane. Pourquoi, je sais pas, peut-être parce que j'avais les cheveux très longs et bruns. C'était ma mère qui m'appelait sa gitane. Et c'est vrai que un moment de ma vie où je vivais près d'Orléans, c'était très beau, c'était vers Olivet, il y a les gitans qui peuvent, tu connais.
Oui, je connais.
Voilà, et du coup moi j'allais me promener et ça m'est arrivé de parler avec eux et c'est, quand je les voyais, il y avait quelque chose qui me, même encore alors que j'avais, je sais pas, entre 40 et 50 ans, qui me faisait rêver de cette vie en communauté et dehors.
Tu nous as pas dit ce que tu faisais comme profession?
J'étais psychologue dans un hôpital psychiatrique. En fait, j'ai fait des... Je sais pas, des quinquennats, mais j'ai fait des décennies, à peu près 10 ans en hôpital psychiatrique, 10 ans dans un hôpital local où il y avait un IME, foyer jeunes adultes, et 10 ans dans donc mon dernier travail, C'était dans le social, avec l'aide sociale à l'enfance, les enfants en souffrance, les enfants placés, les enfants maltraités. Voilà. Travail très difficile par le contexte peut-être politique actuel et qui a une forte, puisque le conseil départemental c'est une instance politique, donc voilà, des répercussions sur la façon de prendre en charge les enfants, quoi.
Et physiquement, est-ce que tu as une activité ?
Ben, je marche beaucoup, je fais du yoga. C'est aussi une activité, hein, parce qu'il y a dans la tête des gens, le yoga, c'est on s'allonge et puis on fait rien. Et en fait, il y a des tas de yogas différents. Il y a des yogas très physiques, des yogas très méditatifs. Mmh. Et moi, ce que je pratique, ben, c'est un peu tous, puisque je cherche, je suis très curieuse dans le yoga, donc je peux aller dans des endroits où ça va être que des prières à un yoga plus classique et connu en France, qui est la pratique des asanas, des postures et tout ça, qui peut être une activité physique à part entière.
C'est combien de temps par semaine, là, le yoga ?
Ben, depuis que j'ai décidé de me former en tant que professeur, je ne sais pas, je dois être très... très bon élève, parce que j'ai lu que quand on se formait comme professeur, il fallait faire du yoga tous les jours. Donc je fais du yoga tous les jours, entre une heure et bon, des fois je un petit peu moins, mais ça peut être une heure et demie de séance quotidienne. On fait du yoga comme on se lève le matin et qu'on prend son petit déjeuner.
Ou sa toilette.
Voilà, ouais. C'est ça. En fait, j'ai commencé le yoga, j'en parlais avec ma fille, parce que j'ai donc deux filles, et donc une qui est enceinte en ce moment, et qui a 37 ans. Et je lui disais, j'ai commencé le yoga grâce à toi, parce que j'ai fait la première fois où j'ai fait du yoga, c'est quand j'étais enceinte de ma première fille, où sur Toulouse, il y avait une femme dont j'ai retenu le prénom, qui s'appelle Danielle. C'est dommage, j'ai perdu son nom. Si elle écoute la radio, c'est bien qu'elle me rappelle.
Qu'elle appelle la radio, on lui donnera les coordonnées de Nelly.
Et j'avais adoré son yoga. Pour femmes enceintes, il y avait une salle, c'était près du pont, le pont Saint-Pierre, hein, c'est ça. Donc on faisait des séances de yoga et c'était très agréable de se retrouver là déjà, parce que bah, quand on est enceinte, voilà, on a un petit peu le corps qui change, et de se retrouver toutes avec nos ventres ronds. Voilà, donc j'ai commencé le yoga ici.
À Toulouse.
À Toulouse, il y a 37 ans, puisque ma fille va avoir 38, voilà. Et après, j'ai eu des périodes où je faisais du yoga, des périodes où j'arrêtais. C'était suivant aussi où je vivais, parce que j'ai quand même pas mal bougé dans ma vie, quoi. Bon. Ça fait bien 13-14 ans où ça fait partie de ma vie, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que tu y trouves ?
Ben, j'y trouve quelque chose pour le corps, pour le physique. Alors justement, par rapport au fait que je prends de l'âge. Ce que j'aime bien dans le yoga, c'est qu'on ne sent pas qu'on y vieillit. C'est-à-dire que mon corps, bah, je sens que je peux devenir de plus en plus souple. Et puis, elle viendra certainement dans les 10 prochaines années, quoi. Il y a peut-être quelque chose qui se freinera. Mais pour le moment, le corps, il ne me dit pas, tiens, tu vieillis, donc tu ne peux pas faire ça. On peut toujours faire. Et après, je suis toujours, depuis très très longtemps, dans une recherche spirituelle. Donc la religion, j'y étais un petit peu parce que famille italienne, baptisée, mais j'ai lâché très vite de ce côté-là. Donc il y a toujours une recherche que je trouve dans le yoga et que je trouve sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle aussi. Ça faisait partie des choses que je voulais faire aussi. Du projet de passage à la retraite, c'était marcher sur les chemins. Mais ma fille est enceinte et devant accoucher en juillet.
Donc tu le feras pas ?
Si, je le ferai, mais pas cette année. Ah. Je voulais le faire en tant que rituel de passage, ça va être juste décalé de quelques mois.
Alors si je te dis, Nelly, il n'y a pas d'âge pour s'ausculter, est-ce que tu vois régulièrement médecin, spécialiste, dentiste, etc. ?
Alors dentiste, oui, parce que quand on a mal, on est obligé.
Justement, est-ce que tu n'y vas que quand tu es obligé ?
Voilà, j'y vais tout à fait que quand je suis obligée. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je faisais peut-être systématiquement en tant que femme, les contrôles au niveau des mammographies et tout ce bazar-là. Et que même ça, je me pose la question de si je vais continuer à le faire et que si je suis bien dans ma tête, si je suis bien reliée comme relie le yoga, quoi, à la terre, à l'univers, j'ai peut-être pas besoin de tout ça. Voilà, bon, c'est peut-être un peu... je divague un peu ou je sais pas, mais il faut dire que la retraite, il y a, je sais pas, ça bouscule quand même, et que toutes ces démarches médicales, ça fait jamais plaisir, on a toujours peur d'apprendre quelque chose. Du coup, ben, j'ai tout mis ça de côté depuis quelques mois, voilà. Je sais pas combien de temps ça va continuer, mais pour le moment, j'ai pas envie. Peut-être que je sors de ce milieu-là aussi, même si c'était le social, quoi. Mais je travaillais aussi en lien avec des personnes qui travaillent à l'hôpital. Et quand on voit ce que devient la médecine, on a plutôt envie de se dire comment on peut ne pas tomber malade, quoi. Par l'alimentation, par le yoga, par plein de choses qui font que le corps, il peut fonctionner bien, voilà.
Justement, je me demandais, est-ce que tu fais attention à ton alimentation ?
Oui, alors là, c'est aussi la... Enfin, je l'ai senti, ça, depuis que je vis à Millau. Alors, c'est peut-être... Millau est quand même une ville très écolo. Par les rencontres que j'ai faites à Millau, c'est vrai que peut-être ça m'a influencée. J'habite au centre-ville de Millau, il y a un marché, les produits bio sont, voilà, facilement accessibles. Et il y a une conscience, effectivement... peut-être, hein, qui est arrivé tard chez moi, mais j'espère que, malgré ma petite retraite, que je pourrai continuer. Mais après, j'ai un projet aussi. Parmi les projets, c'est de peut-être trouver un lieu dans Toulouse où je pourrais cultiver mon jardin. Et j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, dans la perspective de cette retraite, j'arrête pas de faire des choses, hein, j'ai fait un stage en permaculture. Pour effectivement être en harmonie avec la nature et puis pour me nourrir.
Sainement.
Voilà. Ouais. Voilà.
Tu es très mince. Moi, je l'ai décrit aux auditeurs. Tu as toujours été comme ça. C'est un tempérament. Tu as toujours fait attention à toi.
Tout le monde me dit, mais je crois que c'est vrai, puisque je le vois, j'ai changé de taille. Alors qu'à la ménopause, on dit qu'on prend du ventre. C'est vrai que j'ai eu cette petite tendance, comme beaucoup de femmes, à la ménopause où mon corps s'est transformé. Mais je crois qu'il faut laisser aller. C'est ce que j'ai lu dans un livre, alors j'ai oublié le nom. Ça, c'est un problème, d'oublier les noms. Mais il y a une femme qui a écrit un livre magnifique sur le yoga et la ménopause, et qui dit de surtout, et ça m'a fait beaucoup plaisir, ça déculpabilise, de se dire que pendant cette année de perturbation de la ménopause, de laisser les choses se faire. Donc là, peut-être, effectivement, à ce moment-là, j'ai mis du ventre, mais bon, pas beaucoup non plus. Mais après, dans le yoga, c'est pas, voilà, je dis pas qu'il faut faire du yoga pour changer son corps, mais la pratique régulière du yoga fait que le corps se transforme. J'ai perdu du poids. Après la ménopause, comme quoi on peut inverser les idées reçues. Ouais. Voilà.
Est-ce que l'apparence physique, c'est important pour toi ?
Ça aussi, je crois que c'est quelque chose que m'amène le yoga. Je pense que ça, c'est important, je le vois, tu vois, par exemple, mes cheveux blancs me chagrinent. Enfin, je l'ai très bien vécu en ce moment, je ne sais pas, peut-être parce que je ne sais pas, peut-être je suis un peu fatiguée, parce que la retraite, c'est ça, il y a des moments ça va très bien, et puis il y a des moments quand même d'interrogation. Donc je me dis, il y a quand même des choses qui ne lâchent pas, puisque je me pose des questions sans arrêt, tes cheveux blancs, c'est bien, c'est pas bien, voilà, et ça en fait partie de l'apparence. Par contre, la retraite, je vois que très vite, ça a changé quelque chose au niveau de ma manière de m'habiller, où je m'habille plus en pensant à qu'est-ce que j'aime sentir sur le corps, plutôt que il faut que je m'habille parce que je vais travailler, il faut que je sois un peu comme ça, voilà. Que là, je suis plus comment, voilà, est-ce que tu as envie d'être en robe, parce que j'adore les robes, j'aime bien être féminine, mais je ne sais pas si c'est pour être féminine. J'aime bien les robes parce qu'il y a de la sensualité, quand il y a du vent, ça bouge, j'adore tout ça.
Le côté gitane.
Voilà, le côté gitane, voilà.
Tu ne fumes pas ?
J'ai arrêté de fumer il y a 25-30 ans, à peu près. Enfin, j'étais une fumeuse depuis l'âge de 17 ans. Fumer, c'était à l'époque, voilà, l'adolescence, on grandissait en fumant. L'époque où les cigarettes n'étaient pas chères, donc quelqu'un fumait, il passait une cigarette, donc c'était très facile de fumer. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Mais là, je ne pense pas que je reprendrai, puisque ça fait, je ne sais pas, un peu plus de 15 ans, peut-être presque 20, que je ne fume plus.
Alors Nelly, si je te dis il n'y a pas d'âge pour s'informer, est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se passe dans le monde, dans la société ?
Alors je me tiens au courant, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de fermer parce qu'on sent quand même une morosité. Je cherche justement ce qui sort de ce qu'on pourrait apprendre à la télé. J'adore la radio. Bon, j'écoute pas mal France Inter, France Culture. Puis parfois on m'informe d'autres radios, par exemple on m'a parlé d'une télé, je crois, qui s'appelle Le Média. Voilà, donc je cherche plus à avoir des informations autres, parce que sinon on sent quand même quelque chose qui est un peu uniforme. On sent bien qu'on nous dit ce qu'on veut nous dire, quoi. Donc c'est à nous. Je m'informe en cherchant où s'informer, et après ça va être par le biais plutôt d'événements culturels, comme voilà.
Comme
Des expositions, voilà, chercher quel artiste a encore quelque chose à dire de la culture ou de ce qui se passe actuellement, le théâtre aussi. Ça va être par ce biais-là, par le théâtre, par la peinture, par la culture que je me tiens informée.
Quoi. Pas directement, mais plutôt par d'autres biais.
Un petit peu directement aussi, mais en cherchant, je suis un petit peu, maintenant que j'ai un peu plus de temps, voilà, je vais passer du temps. L'autre jour, je suis tombée sur des émissions justement sur cette télé-là, le média, où effectivement, là, j'ai pris le temps d'écouter des intellectuels, des philosophes qui ne passent pas à la télé, qui ne passent pas dans les radios classiques. J'adore aller au cinéma, c'est aussi quelque chose où je pense que si je peux, j'y vais au moins une fois par semaine, si je peux plus. Et c'est une ouverture vers la société, mais j'aime bien quand c'est justement quand il y a un petit peu de recul par la société, un peu comme un recul du peintre, quoi, tu vois. Voilà, c'est quelque chose, j'espère que jusqu'à la fin de ma vie, je pourrai aller au cinéma.
Toi, tu auras des lunettes.
Oui, des lunettes et que j'entendrai aussi, oui. Voilà. Un des problèmes de vieillir, c'est quand même qu'on a des prothèses un peu partout, on a des lunettes. Voilà, je sens que j'entends de moins en moins bien. J'ai toujours dit que je ne consulterai pas tant que j'étais au travail. Comme ça, ça me permettait d'entendre la moitié des choses au mon travail. Qu'après, quand je recevais des personnes, je me disais le reste, t'as qu'à le rêver ou l'imaginer. Voilà, je me disais, tu iras consulter quand tu seras à la retraite. Et puis, pour le moment, j'y vais toujours pas, j'ai pas envie de consulter. Voilà, ça commence à me gêner au niveau cinéma, quoi. Au cinéma,
au niveau du son. Voilà. Quelle est ton utilisation d'Internet ?
Les mails, bien sûr. Et alors Facebook, même si c'est très contesté, parce que à l'époque où j'étais vraiment dans la peinture, puisque je faisais de la peinture, ça me permettait d'être en contact avec des réseaux autour de la peinture. Et maintenant, le réseau se constitue sur Facebook, entre autres. Hein, voilà, moi, c'est Facebook. Pour le yoga, des manifestations, il y a des infos que j'apprends par ce biais-là. Par contre, je l'utilise comme quelque chose que je lis. Pour le moment, je dis, je ne fais aucun effort pour ça, je n'y écris absolument rien. Voilà, j'y vais lire ce qu'écrivent mes amis ou les gens qui sont soi-disant mes amis mais que je ne connais pas et qui ont un lien avec le yoga. Mais moi, je n'écris jamais rien. Voilà, j'y vais en tant que lectrice.
C'est quoi cette histoire de peinture ?
Alors la peinture, j'y suis tombée, la peinture, quand je travaillais en psychiatrie. J'ai commencé à travailler très jeune en psychiatrie, ça a été mon premier travail en tant que psychologue. Non, pas mon premier, j'ai travaillé un petit peu avant à 7, mais j'ai trouvé que j'étais très jeune quand j'ai travaillé en psychiatrie, je sais pas, 24, 25 ans. Et de se retrouver avec des patients qui ont soit le même âge, soit plus âgés, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup interrogée dans ce face-à-face. Et je suis allée vers l'art-thérapie, voilà. Alors, j'avais commencé à peindre quand j'étais enfant, mais en cachant mes peintures, en ne les montrant pas. Après, j'ai voulu faire les beaux-arts, mais on m'a dit que j'étais pas... Oh, c'est peut-être les parents, mais peu importe, voilà, que j'étais pas assez douée pour ça. Donc, j'ai toujours lâché, quoi. Et là, je crois que c'est peut-être ce monde de la folie, avec ce beau terme, de la folie, qui m'a amenée vers la peinture. J'ai commencé à peindre avant de faire cette formation en art-thérapie. Donc j'ai commencé à prendre des cours de peinture avec un professeur, c'était plutôt quelqu'un qui accompagnait. Ouais, c'était un guide, c'était qu'est-ce que tu as envie de faire. Et à l'époque, moi j'ai commencé avec, il fallait que je peigne en grand pour que la peinture elle soit gestuelle, comme s'il fallait que je peigne avec tout le corps. J'ai fait une formation d'art thérapeute et j'ai monté dans cet hôpital psychiatrique un atelier d'art thérapie. Après, j'ai retrouvé un ami d'enfance quand j'ai fait ma première exposition au Minime, ici, au marché aux cochons, au centre culturel. Ouais. Il y a un ami d'enfance qui est passé voir mon exposition et c'est comme ça que j'ai appris qu'il avait une galerie de peinture. Voilà, donc j'ai exposé chez lui et j'ai passé quelques années ensuite à m'occuper avec lui de sa galerie associative qui existe toujours et qui, voilà, que peut-être on va relancer tous les deux. Et alors après, la peinture, je l'ai un peu lâchée aussi depuis que je vis à Millau, parce que je n'ai pas réussi à me raccrocher au milieu culturel à Millau. Donc je suis tombée dans le yoga et j'y suis allée à fond et j'ai lâché la peinture parce que pour moi, la peinture, ça se nourrit de rencontres avec d'autres peintres. Voilà, je ne peux pas rester dans mon coin. Il faut que j'aille voir d'autres peintres, que je parle peinture, que j'ai plusieurs hypothèses pourquoi elle s'est arrêtée. Il y a ça, et puis peut-être aussi un moment quand j'essayais de peindre, quand je suis arrivée à Millau, je suis venue après une perte amoureuse. dont j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me remettre. Et chaque fois que je me mettais avec mon pinceau et ma peinture, et même quand j'en parle, il y a encore une émotion, j'ai l'impression que ça me renvoie encore à cette perte amoureuse, comme si le deuil de cet amour n'était pas fait, et que de peindre, le réinterroger, c'est cette absence en permanence. Voilà, c'est une des hypothèses, mais je pense qu'elle est vraie, parce que j'ai encore l'émotion quand j'en parle. Voilà, je me dis, je vais avoir le temps, et je pense que quelque chose va revenir, ou pas. Les premières années à Millau, c'était, chaque fois que j'allais au lit le soir, c'était, tiens, aujourd'hui, tu n'as pas peint. Puis ça s'est estompé. Mon atelier, qui existe toujours dans l'appartement où je vis, il a diminué. Mais il y est toujours, il ne peut pas disparaître.
Il y a toujours sa place.
Il est tout petit, il n'y a personne qui peint, mais voilà, mais il va peut-être revenir, ou pas.
En tout cas, tu sors au musée, tu vas voir des expos.
Oui. Voilà, oui, ça c'est vrai que j'ai continué à aller voir des expos très régulièrement. Voilà. Je suis allée à Paris, voilà. Au moment de la retraite, justement, c'est quand j'ai pris la retraite, j'ai dit, je me paye mon petit voyage à Paris, où j'ai fait deux expositions par jour. C'était aussi comme un rituel de passage et de me remettre dans la peinture.
Oui, je reviens sur ce que tu disais là, sur le théâtre. Tu avais commencé à en parler, tu y vas souvent ?
Quand je suis arrivée à Millau, j'ai été amenée par une amie au Festival d'Avignon et j'y vais à peu près tous les ans. Je vais une semaine. Après, bon, il y a peut-être un peu le côté financier maintenant. L'an dernier, j'y suis allée que 4 jours. Mais c'est quelque
chose. C'est un peu tout le monde, hein, je crois.
Oui. Et c'est quelque chose que j'aime bien, ce marathon. C'est, ben, oui, ou peut-être c'est ma façon d'être. Hein, tu vois, quand je suis dans la peinture, je suis à fond dans la peinture. Dans le yoga, c'est à fond. Et être une semaine entière, trois fois par jour dans des pièces de théâtre, je trouve ça super. Je crois que je préfère même me dire, tiens, je vais faire ma semaine de théâtre à Avignon plutôt que d'y aller une fois par mois. Bon, après, c'est peut-être parce que Millau, c'est la ville de la nature. Hein. Millau, c'est pas la ville de la... C'est pas trop la ville de la culture. Hein. C'est une amie qui allait depuis des années, depuis très très longtemps. Et une année, elle me dit, tiens, tu pourrais venir avec moi au Festival d'Avignon. Et c'est justement l'année où je suis arrivée à Millau. Donc c'était en 2000... J'y suis arrivée en Millau en 2008. Voilà, donc ça fait maintenant 11 ans que je vais régulièrement à ce festival.
Est-ce que tu lis ?
Oui, alors là aussi, la lecture, je suis contente parce que...
Oui, tu m'as dit que tu lisais le matin des fois au lit.
Voilà, et puis c'est vraiment revenu parce que dans mon dernier travail là, avec le conseil départemental, a été quelque chose qui a été avec des moments très très difficiles, je dirais même très douloureux. Dans mon travail, avec ce qu'on peut appeler la souffrance éthique, c'est-à-dire une envie de travailler d'une certaine façon avec ce qui m'a constituée en tant que psychologue, avec les références psychanalytiques et tout ça, et quelque chose qui, dans le social, ne peut plus... voilà, le sujet disparaît. Comme il disparaît ailleurs, hein, je crois que c'est pas... Je veux pas dire du mal que du conseil départemental, je crois qu'il disparaît un petit peu partout, le sujet, dans le social, dans la santé. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance quand je suis arrivée au conseil départemental. Et ça a touché mon intérêt pour la lecture de livres de psychologie ou de psychanalyse en me disant, mais c'est pas possible, c'est magnifique ce qu'il y a écrit dans ce livre, mais je peux pas le mettre en pratique. Et ça crée une souffrance qui fait que ça s'est atténué, voilà, ma lecture de ce côté-là. Et puis après, pareil, quand on souffre, on est fatigué. Quand je rentrais le soir, j'avais du mal à lire. Et là, je suis très contente parce que je retrouve la lecture.
Est-ce que la politique t'intéresse ?
Non, je vais dire oui et non. Parfois, j'ai eu envie de m'inscrire dans des groupes, voilà, de faire partie ou de m'inscrire à un parti. Mais il y a quelque chose d'impossible. Bah, je vois dans tous mes lieux où j'ai exercé ma profession, j'ai toujours été en conflit avec l'institution. Et quand j'ai voulu m'inscrire à des partis, il y avait quelque chose de peut-être d'une perte de l'individualité qui fait que j'ai pas pu rentrer dedans.
Nelly, si je te dis, il y a pas d'âge pour voyager, est-ce que tu voyages beaucoup ? Comment ? Où ? Avec qui ?
J'ai beaucoup voyagé parce que j'avais une compagne de voyage, mais qui pour des raisons familiales peut plus trop m'accompagner. Je peux voyager seule, mais quand on est face à des moments intenses, soit parce que le paysage est beau, parce qu'on fait des belles rencontres, on a envie de le partager. On a commencé par l'Équateur alors qu'on devait partir au Vietnam. Ensuite, on est allé au Vietnam. Ensuite, je suis allée en Inde pour le yoga. Enfin,
mais ça, c'est récent, ça ?
Alors, mon dernier voyage, oui, mais ça a commencé aussi. Enfin, j'ai toujours voyagé, mais plutôt en Europe. Et puis, voyager loin, ça a commencé quand je suis arrivée à Millau, donc c'était en 2008, voilà. où là j'ai traversé, je crois, pour la première fois l'océan, puisque c'est là mon premier voyage lointain, c'était en Équateur. Puis après, il y a eu l'Inde deux fois, l'Inde du Sud, puis l'Inde du Nord, le Vietnam. Et là, voilà, je rêve de repartir en Inde, mais j'aimerais y repartir, mais je crois que ça ne peut pas se faire avec un billet aller et puis le retour quand j'en ai envie. Dire, je rentrerai quand ça y est, j'aurai le plan de ce que j'y cherche. Je ne sais pas ce que j'y cherche, mais voilà.
C'était ma question, ce que tu cherchais dans les voyages.
Quand je suis allée en Inde, moi je me dis, je suis allée aussi en Afrique. Quand on va en Afrique, on se dit qu'effectivement c'est le berceau de l'humanité, on le ressent. J'ai ressenti ça dans ces villages où il y a de la pauvreté, mais l'humanité est présente. Après, bon, il faut faire attention. Enfin, des fois, je me dis, fais attention à ce que tu ressens, parce que quand on y passe 15 jours, 3 semaines, voilà, on a peut-être un a priori qui est basé juste sur la différence, hein. C'est-à-dire que l'Afrique, bah, tiens, c'est un pays où on sourit, c'est un pays où quand même, il y a quand même cette philosophie qu'on retrouve en Inde des aujourd'hui ça va, on ne pense pas au demain, on ne parle pas trop du passé. J'ai beaucoup aimé l'Afrique, après je me dis l'Afrique c'est difficile de faire oublier qu'on est blanc, mais c'est un pays où j'aurais bien aimé y retourner. Et voilà, on y sent l'humanité et l'Inde, on y sent la spiritualité. Je veux associer à mon voyage autre chose que je vais là-bas parce que c'est beau, il y a d'autres choses à voir, il faut qu'il y ait autre chose derrière. Voilà. Et l'Inde, c'est être dans les temples, la spiritualité, et puis rencontrer des personnes voilà, dans ce contexte-là. Donc ça serait mon prochain voyage, c'est l'Inde.
Mais tu pourrais y aller seule?
Oui. Y aller seule parce que j'ai ce projet, que c'est quelque chose qui va élargir ma recherche dans le yoga. Après, il y a d'autres pays où j'ai envie d'aller. Par exemple, j'ai envie aussi d'aller en Mongolie, mais ça, c'est suite à ma lecture. Alors, le titre du livre, c'est Yerul Degger. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Il parle de la Mongolie qui donne envie d'aller en Mongolie, avec des choses vraiment très négatives, mais après, avec toute l'histoire et tous les rituels, toute l'histoire culturelle qui donne envie d'aller en Mongolie. Mais là, j'ai pas trop envie d'y aller seule, quoi. J'aimerais partager ces moments-là.
Tu vis seule
Oui,
depuis
hélas.
longtemps?
Bah, je vis seule. Ben, Mio, c'est voilà, c'est. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai commencé à vivre seule et
2008 à peu
ouais,
près.
2008. Et c'est pas quelque chose que j'aime. Donc c'est vrai que ma retraite aussi, ça fait partie puisque je vais quitter Mio pour revenir dans mon pays où je me sens un peu plus ancrée. Tu vois, je dis mon pays au lieu de dire ma région. Voilà, je me sens quand même ancrée dans cette ville à Toulouse où j'ai vécu de ma naissance jusqu'à ce que je parte donc à Orléans. J'avais peut-être pas tout à fait 50 ans. Voilà, donc ça fait 15 ou 16 ans que je me suis éloignée de Toulouse, mais j'y sens mes racines, mes amis, une partie de ma famille. Voilà, donc je vais retourner vivre ici. Et vu que j'arrive pas à trouver le prince charmant, je me dis quand même que j'aimerais ne pas vivre seule. J'aimerais bien avoir une vie peut-être communautaire, mais tout en me disant attention à la communauté parce que j'ai besoin aussi de mon espace personnel. Mais voilà, quelque chose qui se partage. Je ne sais pas trop comment, mais peut-être je l'ai dit, hein, j'aurais dû, pour avoir ce qu'on appelle la retraite à taux plein, si on prend le côté financier, travailler 5 ans de plus. Mais je me suis dit, 5 ans à mon âge, c'est précieux. Je préfère partir pauvre et puis être créatrice de ma vie. Voilà, donc c'est pareil aussi, le logement. Je me dis, peut-être qu'en étant plusieurs, je pourrais avoir un logement qui correspond plus à ce que j'aimerais. Un peu la ville à la campagne, ou la campagne à la ville, c'est-à-dire avoir une maison avec un grand jardin pour y faire ma permaculture. Mais ça, c'est pas dans mes moyens dans Toulouse, voilà. Mais voilà, j'aimerais pas trop m'en éloigner. Et puis avoir une vie, oui, effectivement, la proximité de personnes que je connais empêche des fois hein, ce sentiment de solitude le soir. Dans la journée, ça va, c'est le soir que c'est pesant. Parce qu'après, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais bon, il y a des moments quand même, j'ose le dire, on peut être fatigué. Et voilà, et cette fatigue est seule le soir, c'est vrai que des fois, c'est pesant. Voilà.
Alors revenons un peu sur les voyages. Est-ce que tu te souviens de tes premiers voyages?
Les voyages d'enfance, alors c'était l'Italie, c'était l'Espagne essentiellement, voilà, avec mes parents.
Et la première fois que tu es partie en voyage seule, sans tes parents, tu t'en souviens?
Le premier voyage sans mes parents, c'était, je sais pas si ça existe encore, avec la carte Interrail. On payait à l'époque 50% en France. Et puis, tout était gratuit, enfin gratuit à partir du moment où on avait acheté cette carte. Et on pouvait voyager dans l'Europe entière. Et je suis partie avec mon amoureux. Et on est parti, je ne sais pas pourquoi, alors que j'aimais le soleil, on est parti vers le nord. Mais ça, j'ai beaucoup de paradoxalité. Hein. Et on est parti à Amsterdam et on est allé Suède, Norvège. J'étais très contente parce que c'était juste, je crois que c'était après le bac. Et j'étais contente parce que je pouvais parler, échanger en anglais. Maintenant, j'ai perdu en anglais, mais à l'époque, je me débrouillais très bien.
Si je te dis, Nelly, il n'y a pas d'âge pour s'entraider, est-ce que maintenant que tu en as le temps, le loisir et peut-être aussi l'expérience de vie, tu donnes de ton temps libre?
Oui, mais ça c'est quelque chose. Bah, de toute façon, mon travail, bon, je sais pas si on peut dire que c'est de l'entraide, mais c'est vrai que j'ai toujours eu quand même à penser peut-être plus aux autres qu'à moi-même. Hein. Ça c'est quelque chose où j'essaye des fois de me dire, mais attention aussi à toi. Je ne sais pas si j'en ferai plus, mais c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. Par exemple, par rapport au yoga, je pense à Toulouse et essayer de donner des cours, hein, de créer un lieu pour donner des cours. Mais j'aimerais aussi aller donner des cours, je sais pas, peut-être pas en prison, j'ai peut-être pas envie de m'enfermer, mais dans les quartiers où là ça sera gratuit. Ça, je l'ai toujours maintenu sous une forme ou une autre, une entraide comme ça de donner quelque chose auquel voilà, des personnes n'ont pas accès, soit parce qu'il n'y a pas le côté financier, soit aussi par le côté on n'ose pas y aller, comme la peinture, quoi, on n'ose pas peindre, c'est pareil.
Si je te dis qu'il n'y a pas d'âge pour partager, est-ce que tu ressens l'envie, le besoin de partager ton savoir avec d'autres, avec qui?
Alors mon savoir, je sais pas, mais c'est
Ton
vrai
expérience
que
de vie
oui, mon
aussi.
expérience de vie. Alors je sais pas si j'en suis encore là, me dire que je suis peut-être, mais ça aussi, hein, c'est peut-être le yoga, hein, qui m'amène ça. Je suis plus à partager le présent. Tu vois, par exemple à Millau, j'ai créé un petit groupe d'amis où je leur fais partager ma connaissance du yoga en faisant des cours le dimanche soir chez moi, bénévole, voilà, on est très bien toutes les quatre à se retrouver ensemble, voilà, ça fait partie du partage. Je me sens peut-être pas assez vieille encore, hein, pour me dire je vais partager mon expérience de vie.
Ou avec tes petits-enfants?
Oui, mais c'est pareil, mes petits-enfants, c'est plutôt eux qui m'apprennent à revoir comment on regarde le monde que moi leur dire. À mon époque où moi j'ai fait ça, voilà, je suis plus à me remettre à être enfant avec eux. Voilà, hier j'ai dansé comme jamais j'avais dansé, moi qui sais pas danser, j'ai dansé sur la musique de Babar parce que mes petits-enfants aimaient Babar, tu vois, j'aurais jamais cru encore hier que je savais danser Babar.
Tu as combien de petits-enfants?
Alors j'en ai deux, une petite fille qui a 4 ans et un petit-fils qui va avoir 2 ans. Et bientôt un troisième petit ou petite, on ne sait pas, et on le saura qu'à la naissance au mois de juillet. La petite, elle s'appelle Léopoldine, et le petit garçon, il s'appelle Auguste.
Alors, qu'est-ce que tu partages avec Léopoldine et Auguste?
Oh, je partage beaucoup de choses,
À
des
part danse
moments.
de babar,
Voilà,
déjà.
des moments quotidiens, des moments où je les amène chez la nounou, je vais les chercher à l'école, des moments du quotidien, quoi. Beaucoup de lectures, hein, voilà. Dans mon travail aussi, le travail du conseil départemental, j'ai eu la chance d'avoir une formation qui s'appelait Les livres et les bébés, donc lecture avec les bébés. Et du coup, avec ma petite fille, j'ai beaucoup, beaucoup partagé des moments quand j'arrive Donc, ils habitent Toulouse et moi, Millau. Et quand j'arrivais, c'était montre-moi les livres que tu m'as amenés de la médiathèque ou des livres que j'ai achetés. J'arrêtais d'acheter parce qu'elle a déjà une bibliothèque de livres d'enfants qui est déjà très, très importante. Donc, beaucoup d'échanges sur la lecture. Et ça, c'est passionnant parce que j'ai découvert des livres qui sont des livres presque, on pourrait dire, philosophiques, hein, de la vie. Peut-être quand tout à l'heure tu me dis qu'est-ce que tu partages de ton expérience, et ces choses-là de la vie, moi je m'y retrouve dans certains albums jeunesse, et cela je les fais partager à mes enfants. Voilà.
Ça a toujours été, même la première fois, facile d'être grand-mère?
Oui. Ben, j'ai été grand-mère, comment dire, ma fille avait, je sais plus, un peu plus de 30 ans, donc. Ça fait très longtemps que je me disais que j'aimerais bien. J'adore les enfants. Bon, dans mon travail, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je ne l'ai pas vécu. Tiens, je suis grand-mère, je suis plus vieille. Je l'ai vécu. Quel plaisir d'avoir des petits-enfants. Les petits-enfants, ce que je me dis, ça bouscule au niveau de cette notion du temps. quand on a des enfants, je sais pas, et je le vois avec mes enfants, hein, y a ce truc-là toujours vite, vite, vite. Alors que avec mes petits-enfants, ce que je découvre, c'est que je peux me poser une journée à regarder un enfant. Je cherche pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que je le regarde comment il découvre le monde. Et je suis jamais pressée avec. Bon, si, s'il faut aller à l'école, maintenant ça commence, dépêche-toi parce qu'on risque d'être en retard. Mais après, voilà, j'ai toujours le temps. Et je crois que les enfants, en plus, ils aiment bien quelqu'un qui enfin a le temps de les
regarder. Juste prendre le temps.
Voilà, voilà.
Est-ce que tu te souviens des liens que tu avais avec tes propres grands-parents, grand-mère, grand-père ?
Bon, il y a une grand-mère pour des raisons familiales que je voyais peu, ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère maternelle, je la voyais beaucoup, mais c'est une grand-mère que j'aimais beaucoup, mais je trouvais que c'était triste, qu'elle était malade, qu'elle était asthmatique, toujours au lit. Maintenant, je pense qu'il y avait autre chose que l'asthme, qu'il y avait un côté dépressif. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que c'est quelqu'un qui j'ai des souvenirs de contact physique. C'est une personne qui me prenait dans ses bras, sur ses genoux. Peut-être chose qui se faisait moins avec ma mère, je ne sais pas. Disons que voilà, j'ai ce souvenir qu'avec elle, c'était facile. Et après, mon grand-père est décédé plus tard, maison de retraite, mais voilà, on se voyait moins, pareil, c'est des grands-parents italiens, il y avait souvent des histoires familiales, hein, italiens qui s'emportent, on se fâche, on revient, on se fâche, on revient.
Quoi. Mais ils vivaient en France.
Oui, oui, oui.
Les liens que tu as avec tes filles, est-ce que tu dirais que c'est du même ordre que ce que tu vivais avec tes parents à toi ?
Oh non, pas du tout. Bon, je pense que ça bouge, hein, les relations. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande complicité. Et puis peut-être parce que j'ai voulu inverser quelque chose. Même si on fait une psychanalyse pendant des années, c'est quand même difficile de se dégager complètement de son empreinte familiale, de cette histoire-là. Parfois on fait l'inverse en pensant qu'on s'en dégage, mais c'est parfois l'inverse. Donc moi c'est vrai que j'ai été, ce que disent mes filles, la mère qui ne sait pas dire non, ce qui n'est pas très bien non plus. Mais heureusement, elles avaient un père qui savait dire non. Et je le disais toujours, ça fait un bon équilibre. J'ai vécu pas mal d'années toute seule aussi avec mes filles. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être, que ce soit des filles, mais il y avait beaucoup de complicité, quoi. De complicité dans la façon de bouger dans une maison. On n'était que des filles, donc voilà, on peut aller dans la salle de bain en petite tenue. La complicité des corps, une autre complicité certainement quand les premiers amours commencent, les chagrins d'amour. J'ai eu l'impression d'une plus grande complicité que ce que moi j'avais connu, qui se continue maintenant, quoi, cette complicité qui est peut-être un peu complexifiée puisque toutes les deux sont en couple, mais bon, du coup, je fais attention, quoi. Enfin, j'espère que je fais très attention. Naturellement, je serai toujours aussi proche, mais voilà, le fait qu'elle soit en couple, je me mets à distance, alors qu'il y a des moments où j'aimerais rester avec elle, mais je me dis, Nali, tu t'en vas, tu n'y vas pas, ou tu t'en vas, parce qu'ils sont en couple, laisse-les tranquilles, tu ne pas aimer, toi, que ta belle-mère, elle soit là tout le temps. Mes filles m'appellent, et je le sens, m'appellent très facilement dès qu'il y a des difficultés, ou même pour le plaisir, quoi. Voilà, on est toujours dans cette grande complicité.
Toi, tu ne te confiais pas à tes parents ?
Non, c'était eux qui se confiaient à moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenue psychologue. Quand j'étais enfant, je ne parlais pas. Je n'étais qu'une oreille. Enfin, deux, j'en avais deux.
deux pour chacun.
Et j'ai été, ce qui est paradoxal, quand je repense à mon enfance, j'ai été la confidente de mes parents qui ne s'entendaient pas bien.
Si je te dis, il n'y a pas d'âge pour déconner, Nelly, comment tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens libre ? Est-ce que tu te sens heureuse ?
Alors heureuse, oui, il y a des moments où après, voilà, je crois que ce qui me pèse, c'est peut-être... alors, ça me questionne, cette question de l'amour. Des fois, je me dis, bon, t'as pas d'amoureux, c'est pas grave. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit, on a un capital soleil, après il faut faire attention. Je me dis, bon, ben, j'ai peut-être épuisé mon capital amoureux. Mais quand même, ça me manque. Ça me manque au niveau de la tendresse, du partage intellectuel. Voilà, ça me manque. Mais il y a une importance primordiale pour moi avec les amis. J'ai une vie amicale très riche qui fait que, même le soir, quand je disais des fois je me sens seule, bon, j'ai des amis. J'ai une amie, notamment Amio, qui a un peu une vie qui fait que je peux débarquer chez elle à minuit, c'est pas un problème. Mais même si je lui dis le lendemain je t'ai pas bien, qui va me dire mais pourquoi t'es pas venue à 1h du matin, quoi, voilà. Et l'amitié pour moi c'est quelque chose de très très fort et ça peut pas pallier, mais ça me permet, comme tu dis, de continuer à pouvoir rigoler, déconner. Mmh. Et j'espère que ça s'arrêtera pas, voilà, parce que j'ai des modèles d'amis qui me disent oui c'était bien quand on était jeune, ça je supporte pas.
Pourquoi ?
C'était bien quand on était jeune, certes, mais je me dis qu'à tout âge, on peut dire aussi c'est bien. Oui, il y a certainement des choses, on est ridé, on a des cheveux blancs, esthétiquement, on est certainement beaucoup moins beau à regarder, mais même ça, je me dis, mais regarde pourtant toi, quand tu regardes, je crois que c'est Pina Bausch qui avait créé ces spectacles magnifiques avec ces personnes âgées qui dansent. Voilà, et ça commence à arriver, même des fois peut-être un peu trop, hein, vieillir bien, enfin laissez-nous vieillir aussi, j'allais dire quoi, tu vois, pourquoi bien quoi, tant pis si on est ridé, tant pis si... Oui, j'espère que je déconnerai, hein. Je me rappelle de Tosqueliès qui disait...
Tosqueliès,
ouais. Voilà, Tosqueliès, qui... J'ai vu un petit film de Tosqueliès, mais des fois on retient juste des petits moments de film comme ça, et dans ce film, à un moment, on lui demande qu'est-ce que c'est la psychanalyse pour vous. Et il dit, j'écoute un patient, il déconne, et moi je déconne avec lui. Voilà, ça c'est ancré dans ma tête, et je me dis, la vie, c'est ça, c'est faite de rencontres, et si dans ces rencontres-là, on peut sourire et rire et déconner, c'est qu'on a encore la vie quoi, avec nous. Quoi.
Comment tu vois la société d'aujourd'hui, Nelly ?
Peut-être d'avoir vécu à Millau. Mais c'est moi, hein, parce qu'à Millau, on peut vivre dans la société. À Millau, il y a les gilets jaunes. À Millau, il y a des partis, il y a des écolos, il y a des... Voilà. Mais c'est peut-être moi qui me suis mis un petit peu en retrait de la société. Après, une ville comme Millau, ça aide parce qu'il y a la nature. Et par exemple, je passais peut-être avoir beaucoup de gens toute la semaine dans le cadre de mon travail. J'avais besoin d'aller dans la nature toute seule. Et je crois que je me suis un peu désocialisée. Et la société, je me dis, peut-être si je reviens vivre à Toulouse, je m'y remettrai un petit peu plus. Je peux en dire ce que j'en entends ou ce que j'ai côtoyé par mon travail, que je la sens un peu morose pour les enfants, pour ces jeunes qui entendent parler de chômage, des difficultés dans leurs études. Voilà, je me dis, c'est pas très gai. On se retrouve aujourd'hui, il fait très beau, c'est le mois de février. C'est le plaisir d'être presque en tenue d'été et en même temps dire mince, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que ça fait 3 hivers qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et ça, c'est très inquiétant. On peut faire comme dit Pierre Rabhi, sa petite goutte. Moi, c'est vrai que je le fais malgré mon âge, j'utilise Blablacar parce qu'en me disant il y a 4 personnes dans ma voiture, c'est mieux que d'être seule. C'est ma petite goutte, quoi. Hein, pour l'écologie, je vais faire le tri sélectif, je ne vais pas manger de viande. Il y a le côté aussi, peut-être, hein, d'aller vers le végétarien parce que ça fait partie de toute la philosophie qui vient aussi par le yoga. Mais aussi, quand on sait qu'effectivement, élever un bœuf, ça va prendre aussi beaucoup d'énergie pour arriver à tout ça. Voilà, je me dis qu'il y a peut-être cette conscience personnelle. C'est terrible parce que je me dis, est-ce que ça suffit ? Bon, c'est vrai que c'est la petite goutte. Pierre Rabhi, il me rassure de ce côté-là. Mais après, on a l'impression que ça ne suit pas, quoi, qu'on est pris dans cet étau économique.
Mais est-ce que tu pourrais pas dire que c'était mieux avant, comme tes amis ?
Le c'était mieux avant, moi je me dis, je crois qu'on le dit tout le temps, c'était mieux avant. Nos parents le disaient, et pourtant nos parents ont vécu la guerre, donc je me dis, qu'est-ce que c'était donc qui était mieux avant ? C'était peut-être notre innocence, notre jeunesse, qu'on se disait l'avenir est devant nous. Alors que c'est vrai que c'est peut-être plus difficile maintenant, que ce soit au niveau des guerres qu'au niveau du climat, l'avenir, il semble pas trop devant nous. Il y a quand même une régression sociale et qui continue. J'ai pas connu, le militantisme pour avoir les congés payés, mais mes parents l'ont connu et m'en ont parlé. Donc on est de cette génération où on avait des combats que l'on gagnait et maintenant on voit que tout ce qu'on a gagné, on le perd. Et tiens, j'ai vu ce beau documentaire là, La Sociale, qui fait comment on a créé cette sécurité sociale et qu'on est en train d'attaquer aussi. Donc on voit dans différents registres de la société tout ce que l'homme a gagné dans son militantisme et tout ça, et qui régresse. Ça me fait un peu peur. Voilà.
Si je te dis maintenant, il n'y a pas d'âge pour changer. Qu'est-ce qui a changé entre la jeune fille que tu étais et la femme que tu es devenue ?
Paradoxalement, justement, quand j'étais jeune fille, alors peut-être mon histoire familiale fait que j'étais très triste. Déjà, quelqu'un qui ne parlait pas. Voilà, j'avais peur de ne pas parler, puis finalement, j'arrive à parler. Mais j'étais une enfant qui, jusqu'à 20 ans, ne parlait pas. J'ai fait le saut très courageux de ma part d'aller en psychanalyse, ou ce qui en avance, c'est la parole. Ça, quand j'y repense, j'en transpirais quand j'allais chez lui, tellement que je me dis, il va falloir que je parle. Mais voilà, après, ça a quand même débloqué quelque chose. Puis mon travail, quoi. J'étais obligée de commencer à parler. Donc j'étais une enfant qui pleurait beaucoup, c'est vrai, qui était très triste parce que j'étais dans un contexte familial où mère dépressive. Peut-être que moi je m'y suis plus là-dedans et que j'ai eu ce sentiment d'existence dans la mélancolie, dans le côté dépressif, dans tout ça. Et j'ai mis du temps à sortir. Et maintenant, effectivement, j'ai plutôt tendance à, par ce cheminement de ma vie, hein, qui est la psychanalyse, ce que j'ai découvert dans la marche aussi, hein, on n'a pas trop parlé, mais dans ces chemins de Compostelle où une journée, elle est simple, on se lève le matin, il fait beau, il pleut, c'est pas grave, on met un imperméable ou on met un short et on avance et on avance et on avance. Et là aussi, il y a une philosophie qui est magnifique parce qu'on avance. Hein. Dans le yoga, c'est pareil, plus j'avance, plus je me dis, le yoga, c'est vaste. On avance dans le corps, on avance aussi dans la spiritualité. Et donc tout ça, ça m'amène, oui, peut-être à être heureuse dans des moments de la journée, voilà, des moments où il fait soleil, je sens le vent, c'est agréable. Je suis avec ma petite fille, on éclate de rire, c'est agréable. Voilà. Ce que j'avais pas quand j'étais jeune, où il y avait une chape de mélancolie ou de tristesse, quoi. Pas mélancolie quand on est jeune, peut-être pas, mais de tristesse. Voilà. Donc c'est ça qui a changé. Et c'est bien.
Si tu devais recommencer ta vie, est-ce que tu la revivrais de la même façon?
Alors c'est vrai qu'il y a des moments que je dis non et puis en même temps ben, je me dis ben, si j'ai pris ce chemin, c'est pas pour rien. Il y a des moments où je me dis oui, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû rencontrer tel homme. Bon, et puis il y a des moments où je me dis mais c'est le chemin de ta vie, il t'amène là où tu es. Quand on est à la retraite, on a près de soi, moi j'ai encore mon père, quelqu'un qui se rapproche de la mort. Donc du coup, on y pense aussi par ces proches-là ou parce que à l'âge qu'on a, on a aussi perdu beaucoup d'amis proches ou des gens de sa famille proche. Donc on interroge la mort autrement. Et c'est vrai qu'il y a mon rapport à la mort qui change aussi de plus en plus. Alors peut-être c'est pour me rassurer, parce qu'effectivement, elle approche aussi. Mais c'est vrai que je rentre dans des choses. Est-ce que c'est pour me rassurer, mais en me disant on a notre chemin de vie et que peut-être on vivra autrement dans notre prochain chemin de vie.
Ça, c'est l'enseignement du yoga aussi.
On ne le retrouve pas quand dans le yoga, il y a aussi des mouvements ici, hein, en France, des personnes qui travaillent sur l'énergie, hein, qui parlent aussi, qui introduisent peut-être hein, des. Il y a des choses qui se regroupent, quoi, qui ne sont pas forcément que le yoga, mais il y a aussi des personnes qui travaillent, alors je ne sais pas comment les nommer, mais sur les chamans, hein, par exemple, hein, qui peuvent travailler sur ces notions un petit peu énergétiques. On n'est qu'énergie. À un moment, on vibre comme ça et que. Quand on va mourir, notre esprit va partir et il reviendra sous une forme ou une autre par notre âme, on ne sait pas où. Alors dans le yoga, par contre, ce qu'ils disent, c'est d'y penser pour essayer d'y donner une orientation. Voilà, alors des fois, je me dis, tiens, tu reviendras, tu seras grande et blonde et pas petite et brune. Non, je plaisante. Voilà.
Est-ce que tu as encore des rêves?
Oh oui, plein. Oui, j'espère que. Que,
En tout cas, tu as plein de projets.
voilà, j'ai plein de projets, j'ai aussi des rêves et j'espère que. Oui, c'est dans le livre tibétain. Alors, il y a le livre tibétain de la mort, mais moi j'ai lu, je suis plus optimiste, le livre de tibétain de la vie et de la mort. Et c'est vrai qu'il y a aussi une philosophie de la mort là-dedans qui est que jusqu'à la fin, on peut penser, jusqu'à la fin, on peut rêver et que accompagner. Je ne peux pas dire que j'accompagne les personnes âgées que j'ai autour de moi et un petit peu quand même hein, vers la mort, mais. Quand je peux échanger avec elles, c'est déjà écouter leur souffrance, mais surtout leur dire, on peut penser, on peut rêver encore, on peut rêver à aller passer une soirée, comme je disais, à manger une glace ce soir parce que je suis gourmand, quoi. Voilà. C'est un petit rêve, mais bon, qui a peut-être toute sa splendeur, quoi, de la vie.
Pour terminer cet entretien avec Nelly, nous écoutons son choix musical. Les gens qui doutent, Dan Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutre la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont